Vous êtes sur RTL.
Effectivement, c'est parti pour 2 heures d'info. Bonsoir Vincent Parisot.
Bonsoir à toutes et à tous. À la une, une décision historique et un pas de plus vers un référendum sur la privatisation d'Aéroports de Paris. Référendum d'initiative partagée. Le Conseil constitutionnel juge en effet conforme le texte déposé par 248 parlementaires. Ce feu vert ouvre la voie à une grande consultation populaire par Internet qui devra recueillir 4 700 000 signatures d'ici 9 mois. Et les assemblées auront 6 mois ensuite pour examiner ce texte qui ancre ADP dans le service public. Sinon, le président sera tenu d'organiser un référendum. On en parle avec l'un des parlementaires à la manœuvre, le député Les Républicains Gilles Carrez, invité à 18h20. Et on y reviendra évidemment en refaisant le monde tout à l'heure après 19h15. RTL Soir, première édition. C'est avec vous Isabelle Choquet, bonsoir.
Bonsoir Vincent, bonsoir à tous.
Et les autres titres.
Le pape à l'offensive contre la pédophilie dans l'église. Il rend la dénonciation obligatoire, seul le secret du confessionnal est préservé. Explication dans un instant. Les fonctionnaires dans la rue, plus de 30 000 à Paris selon la CGT. Ils dénoncent notamment la suppression annoncée de 120 000 postes. L'inquiétude des Restos du Cœur, le fonds européen qui subventionne les associations caritatives pourrait être réduit de moitié. À suivre également, le procès France Télécom, la parole au parti civil très choqué par la froideur de l'ancien patron Didier Lombard. Et puis Apple, accusé de tricherie, la marque à la pomme nous ment sur l'autonomie des batteries d'iPhone. La Bourse de Paris, elle termine ce soir en nette baisse d'1,93% à 5313 points. Les courses à Maison Lafitte, il fallait jouer le 4, le 10, le 6, le 5 et le 14.
À la fin du journal, la question qui vous permet de comprendre l'actualité. Nous sommes à la veille du jour du dépassement. L'Union européenne aura épuisé demain ses ressources naturelles pour l'année. À 18h25, les coulisses de l'actualité, direction Colmar, devenue la destination branchée des touristes chinois. Et cela grâce à une émission de télé-réalité chinoise qui compte quand même quelques 2 milliards de téléspectateurs. À 18h30, Alain Duhamel nous dira ce qu'il pense de cette journée de grève dans la fonction publique. Et à 18h35, sur les traces de la muse et maîtresse de Picasso, Brigitte Benkemoun nous propose un véritable jeu de piste chez les surréalistes en publiant « Je suis le carnet de Dora Maar » et elle sera notre invitée. La météo maintenant, c'est avec vous Patricia Charbonnier, bonsoir.
Bonsoir.
Alors ?
Demain, c'est une petite amélioration entre deux perturbations. Moins d'averses sur la moitié est du pays et le retour des éclaircies et même un ciel qui restera lumineux toute la journée près de la Méditerranée. Alors que dans l'ouest, c'est bien nouvelle dégradation qui va arriver par la côte atlantique avec déjà de la pluie. Demain matin, entre la Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine, des pluies dans l'après-midi sur le quart nord-ouest et des averses localement orageuses dans la partie sud-ouest. Le tout dans des températures encore fraîches. 3 à 13 degrés pour demain matin et 14 à 24 dans l'après-midi, 14 à Brest, 17 à Nancy et Paris, 23 à Grenoble et Marseille et 24 à Toulouse.
Merci Patricia, à tout à l'heure.
RTL Soir.
Le pape fait la loi, en tout cas celle du Vatican, et face à la pédophilie, il passe à l'offensive.
François a publié aujourd'hui une lettre apostolique qui modifie la législation interne de l'Église, le droit canon. Les crimes d'abus sexuels offensent notre Seigneur, écrit-il, et ils trahissent la confiance des fidèles. Il faut donc les dénoncer. Bonsoir Marie Guerrier.
Bonsoir.
C'est la principale disposition de cette lettre. Désormais, tous les religieux auront l'obligation de signaler le moindre soupçon d'agression sexuelle.
Oui, signaler aux autorités de l'Église les agressions sexuelles sur mineurs ou personnes vulnérables, mais aussi tout acte sexuel subi sous la contrainte par abus d'autorité. Ça veut dire que les violences contre les religieuses, les séminaristes doivent aussi être dénoncées. Signaler également la détention de photos et vidéos pornographiques et puis dénoncer tous ceux qui couvriraient ces faits. Alors, il faudra qu'il y ait ensuite, après un signalement, une enquête et ne pas traîner. Arriver à des conclusions dans un délai de 90 jours. En publiant ce motu proprio, le pape ne s'en remet plus seulement à la conscience des prêtres et des évêques. Cela devient une obligation de signaler. Il les place devant leurs responsabilités. Alors, à une exception, le secret de la confession est, lui, préservé. Dans son texte législatif, le pape demande que chaque diocèse se dote, d'ici à un an, d'un dispositif facile d'accès au public pour adresser un signalement. Alors, la forme n'est pas totalement définie. Il faudra aussi prévoir un accueil et un accompagnement des victimes et de leurs familles en leur assurant la confidentialité. En France, par exemple, les diocèses ont déjà mis en place des cellules d'écoute et une adresse mail qui permet de recevoir les signalements.
Marie Guerrier, on y reviendra également tout à l'heure dans On refait le monde. L'Union sacrée aujourd'hui contre la réforme de la fonction publique. Tous les syndicats étaient dans la rue aujourd'hui.
Oui, tous les syndicats et tous les métiers, les enseignants, les hospitaliers, les douaniers, ils dénoncent ce projet de loi qui prévoit notamment la suppression de 120 000 postes d'ici à 2022. Il est aussi question d'une rémunération au mérite et d'un recours plus fréquent aux contractuels. Objectif, bien sûr, faire des économies. Le secrétaire d'État Olivier Dussopt a rappelé ce matin que le déficit public était de 70 milliards d'euros. Des propos qui font bondir Yves Verrier, le secrétaire général de Force Ouvrière.
Le secrétaire d'État en charge de l'action publique et des comptes publics, malheureusement, il n'a retenu que les comptes publics dans sa mission. Je trouve lamentable d'assimiler la fonction publique aux 70 milliards de déficit public. Je lui rappelle que son collègue, M. Darmanin, évalue, lui, à 140 milliards de dépenses publiques consacrées aux aides publiques aux entreprises chaque année. On ne doit pas réduire le service public, la fonction publique, à une dépense. Les fonctionnaires ont le sentiment, à force de se promener avec une pancarte « Je suis une dépense », je trouve lamentable que le ministre ne retienne de sa mission que les comptes publics et qu'il assimile le déficit de l'État à la fonction publique.
Yves Verrier, secrétaire général de Force Ouvrière au micro RTL d'Anaïs Bouissou.
C'est donc un obstacle de taille sur la route de la privatisation d'Aéroports de Paris puisque le Conseil constitutionnel donne son feu vert à un référendum d'initiative partagée.
Et ce serait le premier du genre. Les sages estiment en effet que toutes les conditions sont réunies. Alors c'est le début d'un long processus, mais pour les opposants au projet, Benjamin Sportouche, c'est déjà une belle victoire.
Eh bien oui, c'est clairement une satisfaction pour les plus de 250 parlementaires de l'opposition de droite et de gauche qui avaient lancé il y a un mois cette proposition. Ça avait donné lieu à une photo inédite depuis bien longtemps et donc ça a enclenché cette procédure de référendum d'initiative partagée qui figure dans la Constitution depuis 2008 mais qui n'a jamais été utilisée. Les neuf sages où figure depuis peu Alain Juppé ont donc donné leur accord.
Et alors, et maintenant Benjamin ?
Eh bien le gouvernement a un mois pour lancer le site internet qui doit éventuellement permettre de réunir 4,7 millions de signatures, 10% du corps électoral, pour qu'un référendum ait lieu. Seuls les Français qui ont leur carte d'électeur à jour pourront signer cette pétition. Ils auront alors 9 mois pour cela. Le gouvernement doit également mettre en place des points de signature dans 2000 mairies pour les Français qui n'auraient pas accès à Internet. Mais attention, le diable est dans les détails. Si les 4,7 millions de signatures sont acquises, il y aura encore un passage devant les assemblées qui validera ou pas ce référendum. Et puis, encore faut-il que le Conseil constitutionnel n'annule pas tout bonnement la privatisation d'ADP. Il se prononce en effet la semaine prochaine sur la loi qui le prévoit. Plus besoin alors de référendum qui tomberait de fait à l'eau.
Benjamin Sportouche, on en parlera en tout cas dans quelques minutes avec l'un de ses parlementaires à la manœuvre, le républicain Gilles Carrez.
Une date à noter pour tous les élèves de terminale, mercredi 19h. Ils pourront alors prendre connaissance des premières réponses à leurs vœux sur Parcoursup, accepter, refuser ou liste d'attente.
C'est la suite du procès des suicides à France Télécom. La parole aux parties civiles.
Hier, elles ont entendu l'ancien patron Didier Lombard nier toute responsabilité dans les dizaines de suicides qui ont accompagné le plan de restructuration à la fin des années 2000. C'est comme ça, je n'y peux rien, c'est ce qu'il a dit. Alice Moreno, vous êtes au Palais de Justice de Paris pour RTL. Ces propos ont particulièrement choqué Patrick Ackermann du syndicat Sud.
Oui, sans cesse, Patrick Ackermann prend à partie les dirigeants de France Télécom, en particulier l'ex-PDG Didier Lombard, assis juste là, à un mètre de lui. Les regrets, c'est important, pensez-y, lance-t-il d'une voix forte. Puis il s'adresse au tribunal. Quand Didier Lombard dit qu'on lui vole le succès de la transformation de l'entreprise en 2009, en plein cœur de la crise des suicides, c'est un peu violent. Il ironise. Monsieur Paris, qui s'est jeté sous un train à l'été 2009, c'est donc juste avant la fête. Il n'avait rien compris. Pour lui, la privatisation de l'entreprise est une trahison. Il effectue même une comparaison avec la série des années 70, Les Envahisseurs. Vous, messieurs les dirigeants, vous êtes des aliens et nous, des sacs de viande. Aujourd'hui encore, il considère Orange comme une multinationale qui ne pense qu'aux bénéfices, bien loin de l'entreprise de service public qu'il a connue il y a des décennies.
Alice Moreno au procès France Télécom pour RTL. Un homme en garde à vue dans le Gard dans l'enquête sur le viol d'une joggeuse, c'était le 22 avril dernier. Des analyses ADN sont en cours. 3 autres personnes ont été entendues, mais relâchées.
Allez, on marque une pause et puis dans un instant, avant de parler des batteries de nos smartphones, on évoquera cette sérieuse inquiétude du côté des Restos du Cœur face au désengagement de l'Europe. A tout de suite.
RTL Soir, 18h09.
RTL Soir.
RTL Soir 18h10, Vincent Parisot, et pour la suite du journal, Isabelle Choquet.
Avec des Restos du Cœur qui sonnent l'alarme, ils appellent à un plan européen de lutte contre la pauvreté.
Actuellement, le Fonds européen d'assistance aux démunis permet de financer l'aide alimentaire, mais le président des Restos, Patrice Blanc, s'inquiète pour son avenir. Il est question de l'intégrer à un fonds social plus large, en clair, de diviser les moyens par deux.
Plus de 35 millions d'Européens bénéficient de ce fonds actuellement, ce qui aurait une conséquence catastrophique, hein, puisque c'est tout simplement grâce à cet argent que nous pouvons acheter de la nourriture fournie aux personnes qu'on accueille. On a beaucoup de familles monoparentales, des retraités en particulier en milieu rural, et des jeunes entre 18 et 25 ans qui aujourd'hui frappent à la porte des Restos du Cœur.
Le président des Restos du Cœur, rejoint pour RTL par Mélina Fachin. Je me tourne vers vous, Martial Liu, chef du service économie d'RTL. Est-ce qu'il a des raisons de s'inquiéter, Patrice Blanc?
Pour l'instant, on n'en est qu'au stade des inquiétudes à avoir, mais elles sont justifiées puisqu'en fait, on entame des discussions entre les différents pays d'Europe sur le budget prévisionnel des années 2021 à 2027. Et c'est là qu'on décide si on reconduit le budget de la politique agricole commune, par exemple, au même niveau, et comment le budget sera redistribué pays par pays, et c'est dans ce cadre-là que le programme européen d'aide aux plus démunis pourrait être raboté. Entre 2014 et 2020, l'Europe a accordé 3,8 milliards de subventions aux associations comme le Resto du Cœur ou la Banque Alimentaire pour les aider à acheter de la nourriture et faire fonctionner les structures. Et bien dans les projections actuelles, mais rien n'est encore fait, j'insiste bien, l'enveloppe pourrait tomber sous les 3 milliards. Certains redoutent même un budget divisé par deux, et pour toutes ces associations, ce serait une perte lourde parce que cette subvention de l'Europe peut représenter autour de 15% du budget annuel.
Merci, les explications de Martial Liu.
En cette journée de l'Europe, les 28 sont réunis en sommet en Roumanie.
Oui, sauf qu'ils ne sont que 27. Le Royaume-Uni fait l'école buissonnière pour cause de Brexit. Emmanuel Macron en profite pour faire campagne pour l'Europe, pour l'écologie. Et puis, le chef de l'État répond aussi à la polémique grandissante sur la vente d'armes françaises à l'Arabie Saoudite. Des armes destinées à la guerre au Yémen. Un cargo doit partir prochainement du Havre, mais le chef de l'État assume.
L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis sont des alliés de la France. Et ce sont des alliés dans la lutte contre le terrorisme. Et donc nous l'assumons totalement. Aux Émirats Arabes Unis, nous avons une des plus grandes bases françaises à l'étranger. Et donc en effet, il y a des relations qui se font sur le plan militaire. Il y a un comité qui gère ces exports, qui se fait sous l'autorité du Premier ministre, et dans lequel nous demandons la garantie que ces armes ne puissent pas être utilisées contre des civils.
Emmanuel Macron au micro RTL de Béatrice Adjage. À la Réunion, un surfeur a été tué par un requin au large de Saint-Leu. Le squale lui a arraché une jambe. C'est la 24e attaque depuis 2011 et la 11e mortelle.
Je disais qu'on allait parler d'un sujet qui nous concerne tous, ou presque, à savoir l'autonomie de nos smartphones.
Oui, parfois, on ne les quitte pas du matin au soir. Alors évidemment, l'autonomie de la batterie est devenue un critère extrêmement important quand on achète. Une association britannique de défense des consommateurs s'est penchée sur le sujet. Marie Billon, vous êtes la correspondante d'RTL à Londres. Apparemment, Apple a tendance à largement surestimer l'autonomie de ses iPhones.
Et oui, il y aurait un vrai fossé entre ce qui est marqué sur la boîte et la réalité. L'association de consommateurs Which a testé notamment 9 modèles d'iPhone et pour tous, l'autonomie des batteries aurait été surestimée entre 18 et 51%. Le pire serait l'iPhone XR. Apple promet une longévité de 25 heures mais elle ne serait que de 16 heures et 32 minutes. HTC aussi aurait tendance à l'exagération mais d'autres smartphones par contre auraient agréablement surpris les chercheurs. Des Samsung, Nokia et Sony, surtout l'Xperia Z5 Compact qui est censé avoir une autonomie de 17 heures et qui en fait pousserait jusqu'à 25 heures et 52 minutes. Alors c'est très précis, donc il faut se demander comment Which a fait son étude. Ça reste assez flou. On sait juste que les enquêteurs ont testé 50 smartphones de différentes marques, tous neufs, tous chargés au maximum. Et puis ils les ont utilisés en passant des appels en continu et en surfant sur le web jusqu'à ce que la batterie ne meure. Mais on ne sait pas, par exemple, à quel niveau était la luminosité de l'écran. Apple justement a requis un droit de réponse et compte demander à Which plus de détails sur sa méthodologie.
Marie Billon, donc à Londres pour RTL. Vous allez recharger vos batteries?
Un petit peu.
Voilà, et vous revenez à
18h30. Je me sens faible.
À tout de suite. Et maintenant, les clés pour bien comprendre l'actualité. Demain, le 10 mai, ce sera donc le jour du dépassement. Ça signifie que sur le papier, Virginie Garin, l'Union européenne aura épuisé toutes ses ressources annuelles.
Oui, en un peu plus de 4 mois, elle aura utilisé toutes les ressources que la nature met un an à produire. Chaque année, les forêts qu'on coupe repoussent, les poissons qu'on pêche se reproduisent, les nappes phréatiques se rechargent. Tout ça a été épuisé en 4 mois pour consommer, manger, nous chauffer. Et si tous les habitants de la Terre vivaient comme nous, Européens, il faudrait près de 3 planètes pour fournir l'eau, le bois, les terres agricoles à tout le monde. Donc notre empreinte sur la nature est forte, nous l'épuisons. Ces calculs sont faits par une ONG, le Global Footprint Network avec WWF à partir de milliers de données fournies par les États. Et l'Europe, qui représente 7% de la population mondiale seulement, utilise 20% des ressources naturelles de la Terre.
Oui, parce qu'on ne gaspille pas seulement nos ressources, on prend également celles des autres.
Voilà, quand on roule avec dans nos voitures de l'huile de palme qui vient d'Indonésie, nous contribuons à couper les arbres là-bas. Même chose avec le soja qui vient de la forêt amazonienne et qui sert à nourrir nos volailles. Alors ce jour du dépassement, il est différent selon les pays en Europe. La France est pile dans la moyenne. Le pays qui a la plus forte empreinte écologique, c'est le Luxembourg. Son jour du dépassement est en février. Et ceux qui sont les plus vertueux, car ils ont aussi des économies moins développées, sont la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie.
D'accord. En Europe, on roule avec de l'huile de palme?
Oui, d'ailleurs, il y a 20 000 tonnes qui viennent d'arriver à D'accord. la Med vers Marseille pour fabriquer des biocarburants à partir d'huile de palme qui sont incorporés à nos carburants pour faire rouler nos voitures.
Merci de ces précisions, Virginie Garin. Heureusement que vous êtes là pour les clés de l'actualité. Allez, à suivre sur RTL. Premier invité d'RTL Soir, Gilles Carrez, le député Les Républicains qui fait partie des 248 parlementaires à avoir enclenché cette première procédure du référendum d'initiative partagée contre la privatisation d'aéroports de Paris. Vous l'avez compris, on n'y est pas encore, mais ça se rapproche. À tout de suite.
RTL Soir, 18h17.
RTL Soir.